Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Attaquant, Karim Benzema.
Voici un moulèque.
Attaquant, Karim Benzema.
Soccer love.
Sometimes may be good, sometimes may be shit. No leave. Leave what? No leave. Leave what?
Ooh. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette.
Balotelli, Aguero.
Soccer love is amazing.
Attaquant, Karim Benzema.
Voici un moulèque.
Attaquant, Karim Benzema.
Bonsoir, chers auditeurs, chers auditrices. Bienvenue à Soccer Support. Tous les lundis soirs, 20h, 21h, CFAC 88.3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Wissam Bensta est votre animateur ce soir, comme tous les lundis soirs. Et cette semaine, au menu, eh bien, on a énormément de choses dont on doit parler. On va commencer par le CF Montréal, puisque le CF Montréal était en action après une semaine de congé du côté de la côte ouest à Vancouver contre les Whitecaps. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est mal passé? Est-ce que ça a été correct? On va en parler dans quelques minutes. Vous allez voir que ça va aller d'une extrémité à l'autre, en fait. Donc, voilà par rapport à ça. Également au menu, on va vous parler de la Coupe du monde des moins de 20 ans qui va débuter le prochain mois du côté du mois de mai. Dans quel pays est-ce que ça va avoir lieu? Eh bien, je vais vous l'annoncer dans quelques minutes durant l'émission, puisque le pays s'est fait retirer sa candidature par rapport à l'accueil de cette Coupe du Monde U20. On va voir pourquoi est-ce qu'un certain pays asiatique s'est fait retirer sa candidature et l'organisation surtout, et non pas la candidature, là, c'est l'organisation qu'ils ont perdu au profit d'un autre pays. Également, on va parler des actualités générales dans le monde du soccer. On avait beaucoup de matchs là, le week-end dernier, très importants. Des grosses équipes ont perdu, des grosses équipes ont gagné également. Et on a beaucoup de matchs à venir très intéressants cette semaine. Notamment, on a les demi-finales et quarts de finale des coupes de certains pays européens très importants. Et au menu aussi, la Copa Libertadores, puisque enfin, cette Copa Libertadores qui commence en avril, eh bien, on connaît déjà les 8 groupes qui vont former cette compétition-là. On va vous en parler, puisque la Copa Libertadores, c'est la compétition peut-être la plus importante de clubs au monde, après l'Europe, bien sûr. Quoique, on pourrait aussi argumenter que certains clubs nord-américains et africains, et même asiatiques, sont aussi forts là, que plusieurs pays, que plusieurs clubs pardon, d'Amérique du Sud. Donc, bon, ça reste à voir, mais c'est quand même une compétition très intéressante. Donc, pour commencer, on va parler du CF Montréal. Le CF Montréal se déplaçait samedi dernier du côté de Vancouver, sur la côte ouest, chez les Whitecaps. C'était un cinquième match dans la saison pour le CF Montréal, et on le savait, le CF Montréal a commencé sa saison avec 3 défaites de suite, et ils avaient gagné leur dernier match du côté du Stade Olympique contre Philadelphie, 3-2. Et donc, peut-être que le vent allait tourner et que le CF Montréal allait avoir le vent dans les voiles. Et non, il n'en fut rien puisque le CF Montréal s'est incliné par la marque de 5-0 contre les Whitecaps de Vancouver, du côté de Vancouver, en Colombie-Britannique. Donc, au sommaire, eh bien, ça fait en sorte que le CF Montréal, pour commencer la saison en 5 matchs, c'est une victoire, 4 défaites, 3 buts marqués, 12 buts encaissés. Donc, la bonne nouvelle de ce côté-là, pour être un peu sarcastique, là, c'est que ça n'est pas la pire attaque de la Ligue, puisqu'il y a des équipes qui ont seulement marqué 2 buts, notamment Kansas City et Colorado. Et ça n'est pas la pire défense non plus, puisqu'il y a une équipe qui a encaissé plus de buts que nous. Et cette équipe se nomme Salt Lake City, qui se sont fait vraiment massacrer là, du côté par le Columbus Crew 4-0. Ben, bon, nous, ça a été 5-0, donc on n'est pas bien placé pour se moquer de Real Salt Lake. Mais à l'heure actuelle, le CF Montréal est une des pires équipes là, de toute la Ligue. Encore une fois, Est-ce qu'il faut paniquer? Non. Parce que quand on regarde le calendrier, là, et on regarde le classement à l'heure actuelle dans la conférence de l'Est, c'est-à-dire que si on gagne un match, on revient seulement à un point de la 8e place qui pourrait nous donner éventuellement peut-être une chance pour se qualifier pour les playoffs de la MLS. Donc, rien n'est joué encore une fois, mais ce match-là a été une catastrophe. Et encore une fois, je l'ai déjà dit à cette émission, le CF Montréal commence toute sa saison avec des matchs à l'extérieur ou presque. Donc sur les 5 premiers matchs, là, sur les 6 premiers matchs que le CF Montréal va jouer, 5 seront ou ont été à l'extérieur. Et le seul match qu'on a reçu, là, ça a été du côté du Stade Olympique contre Philadelphie. Il va rester le 15 avril, on va avoir un match à domicile. Finalement, le 15 et le 22 avril, on aura deux matchs à domicile. Mais là, la saison a vraiment commencé normalement, si on veut. Mais pour ce match-là du côté de Vancouver, on avait un 11 initial avec certaines surprises. On va vous dire ça tout de suite. Là, Romel Kyoto, notamment, était sur le banc. On avait en attaque Mason Toy, Sean Rea et Chinonso Ofor. Finalement, moi qui parlais depuis plusieurs émissions de voir Chinonso Ofor titulaire, eh bien, le coach m'a écouté. Il a été présent. Milieu de terrain, Samuel Piet et Wanyama. À gauche, Chouanière. À droite, Herrera. Et défense centrale à trois, comme d'habitude, Waterman, Camacho et Kamal Miller. Et dans les buts, Jonathan Sirois. Donc, Vancouver, c'est une bonne équipe, mais c'est pas non plus une des meilleures équipes de la Ligue. Là. C'est une équipe qui pourrait aspirer à faire les séries éliminatoires. Mais ceci dit, avant le match contre le CF Montréal, là, Vancouver, ils avaient aucune une victoire. Ils étaient à 3 matchs nuls et 2 défaites. Puis ils avaient marqué seulement 5 buts en 5 matchs. Puis ils en avaient accordé 7. Donc c'était pas non plus une force de la nature, les Whitecaps de Vancouver. Et ce qui s'est passé dans ce match-là, c'est que malheureusement, le CF, avec Rudy Camacho, défenseur central du club, a eu un carton rouge à la 23e minute pour une faute. En fait, il a empêché un attaquant de Vancouver de se diriger seul vers le but. Et oui, c'était un carton rouge après avoir vu les reprises. Là, il l'a retenu un peu par le chandail. Si ça ne se siffle pas, c'est pas non plus le scandale de tous les temps, mais comme l'arbitre l'a sifflé, là, c'est une décision très raisonnable de la part de l'arbitre. Et donc, à partir de ce moment-là, tout s'est écroulé pour le CF Montréal, puisque avant la 23e minute, le CF avait eu deux cartons jaunes, Rudy Camacho et Joel Waterman, deux défenseurs. Les Whitecaps poussaient pour marquer, mais Jonathan Sirois avait été solide et il n'avait pas marqué. Également, à la 10e minute, le capitaine, milieu de terrain, Samuel Piet, un des joueurs les plus importants de l'équipe, se blesse et donc Rida Zouir entre. Et donc, l'équipe est complètement déstabilisée. L'équipe n'a plus son capitaine, l'équipe n'a pas son meilleur attaquant et l'équipe n'a surtout pas son meilleur gardien, James Pantemis. Mais le gardien, Jonathan Sirois, a fait un excellent travail et malgré la défaite de 5-0, du CF Montréal, je peux vous dire que le gardien a fait plusieurs arrêts importants et sur les 5 buts, pour être honnête avec vous, j'ai regardé les reprises puisque le match était très tard le soir, là, quand ça se passe du côté de la Colombie-Britannique. C'est généralement à 10h30 le soir, 10h le soir, heure de l'Est ici à Montréal et Sherbrooke. Et j'ai regardé les faits saillants et je me suis rendu compte que le gardien n'a pas accordé un seul mauvais but et malgré ça, il a fait quand même plusieurs arrêts importants, mais ça reste que ça n'était pas suffisant pour battre Vancouver et surtout pour ne pas perdre. Donc, à la 38e minute, White a marqué son premier but. Baker à la 43e et Gressel à la 45e. Ahmed à la 48e minute. Donc, déjà après, à la mi-temps, là, c'était déjà 3-0 pour Vancouver. Et à la 59e minute, Becher a marqué son deuxième but du match. Et donc, les Whitecaps l'ont emporté 5-0. Les joueurs qui sont rentrés dans le match, Gabriel Corbo après le carton rouge puisque c'est un défenseur central et on a sorti Mason Toy, un attaquant du CF Montréal. À la 54e minute, Herrera est entré, Wanyama est sorti à la 55e minute pour Saliba et Kamal Miller, défenseur central, est sorti pour Torkelson. Et donc, Kyoto n'est tout simplement pas entré. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas eu à jouer ce match pourri dans lequel le CF Montréal n'avait absolument aucune chance de gagner suite au premier but des Whitecaps et surtout en deuxième mi-temps. Donc ça a été une sage décision de l'entraîneur argentin Hernan Losada de ne pas faire rentrer ses meilleurs joueurs dans une cause perdante. Au niveau de la possession, du match, 65% pour Vancouver contre 35% pour Montréal. Les tirs, 29 du côté de Vancouver, 3 pour Montréal. Les tirs au but, 9 pour Vancouver, 0 pour Montréal. En regardant les faits saillants, on s'est rendu compte que le CF Montréal a eu absolument 0 tir cadré. Et non seulement 0 tir cadré, 0 opportunité de marquer un but, ni même de passer près de marquer un but. Donc, c'est une défaite sans équivoque. En fait, pour les parieurs sportifs là, qui avaient bien lu la chose, là, je ne sais pas, mais peut-être qu'ils ont fait beaucoup d'argent avec la victoire de Vancouver. Niveau carton jaune, ça a été 3 cartons jaunes du côté de Montréal, 1 pour Vancouver et carton rouge, bien évidemment, 1 pour Rudy Camacho, qui avait déjà eu d'ailleurs un carton rouge du côté de Vancouver, donc c'est pas la première fois. L'année dernière, il avait été très... très discipliné en termes de carton rouge. Je crois qu'il n'en avait pas reçu. Ou s'il en avait reçu, ça a été très peu. Mais cette année, bon, il y a déjà un carton rouge, mais on ne va pas non plus lui tomber dessus. Ça l'arrive. C'était une mauvaise journée au boulot. C'était une faute. Il a essayé de le gêner, de gêner l'attaquant le plus possible pour que l'attaquant ne se dirige pas seul face à face avec son gardien de but. Eh bien, l'arbitre a décidé que c'est un carton jaune, un carton rouge. Ça aurait pu, peut-être, si on avait été chanceux, être un carton jaune, mais... En regardant les reprises, là, on voit clairement que c'est le dernier défenseur avant le gardien, et donc carton rouge sans équivoque. Maintenant, on va vous parler des analyses d'après-match, puisqu'on a eu les entrevues. Je n'ai pas d'entrevue à vous partager directement, mais j'ai quelques petites notes de match intéressantes pour vous. L'attaquant Chinonso Ofor était titulaire pour la première fois avec le CF Montréal. Et il n'aurait pas pu tomber sur un pire match pour être titulaire pour la première fois parce que jouer à 10 contre 11 et en perdant 3-0 à la mi-temps, là, c'est pas Jojo avec très peu de ballons pour jouer vers l'avant. Et donc, pour Chinonso Ofor, ça a été, disons, un faux premier départ avec le CF Montréal. J'espère qu'il en aura un autre. Samuel Piette, lui, a débuté un 130e match avec le CF Montréal, et il égale le record de Nacho Piatti parmi les joueurs de champ. Donc là, on ne compte pas les gardiens de but. Et Mathieu Chouanière a joué un 79e match, ce qui égale un record de club pour un joueur formé à l'académie du CF Montréal. Maintenant, déclaration d'après-match de Hernan Lozada, de Wanyama et de Chinonso Ofor. Donc, Hernan Lozada a dit la chose suivante. « Ce n'est pas un match à oublier, c'est un match à analyser. » Malgré des conditions difficiles, on perd notre capitaine après quelques minutes et on joue à 10 après 20 minutes. Mais ce n'est pas une excuse. Le match était déjà fini à la mi-temps quand c'était 3-0 et en plus en jouant à 10. On commence alors à penser au prochain match, mais aussi à donner des minutes à certains joueurs pour voir s'ils sont prêts et si tu peux compter sur eux pour les prochains matchs. Victor Wanyama, le milieu de terrain du CF Montréal, le seul joueur désigné du CF Montréal, a dit la chose suivante. C'est toujours difficile de jouer avec un homme en moins, mais nous aurions pu faire mieux. Nous leur avons donné des buts. Deux fois, nous avons perdu le ballon, ils ont marqué. Nous n'étions pas en danger sinon. Nous allons apprendre de cela, des erreurs que nous avons commises sur le terrain, tout comme des ballons que nous n'aurions pas dû perdre. Nous devons être humbles, revenir sur le terrain et travailler dur à l'entraînement. Nous assurer d'être meilleurs sur la route, c'est la seule façon de nous améliorer en tant qu'équipe. Donc évidemment, là, Wanyama, il parle de ballons perdus. Ce n'est pas la première fois que des joueurs d'une équipe professionnelle perdent des ballons au milieu de terrain. Là, il y a eu de la malchance, il y a eu un carton rouge en début de match. Donc c'est un match à oublier. Ça n'est pas un match baromètre, quant à moi, par rapport au niveau et au potentiel du CF Montréal. Je vais pouvoir vous dire ça, qu'on va avoir joué 3, 4, 5 matchs à domicile et que si on perd tous les matchs à domicile et qu'on ne marque pas de but et qu'on est très mauvais et qu'on n'a aucune opportunité, là peut-être que je pourrais aller dans ce sens-là. Mais à date, ce que j'ai vu du CF Montréal, mis à part ce match-là à Vancouver qui est faussé par le fait qu'on joue à 10 et celui, je crois, du côté de Nashville, celui à Austin et à Miami, on a très bien joué contre Philadelphie, on a très bien joué. Et donc, la plupart des matchs du CF Montréal à date là n'ont pas offert de mauvaises performances sur le terrain au niveau du jeu. Et Chinonso Ofor, lui, il a été de cette déclaration. Samuel Piette donne de l'assurance. Quand il est tombé au combat, ça a été un coup dur. On sait que nous avions perdu un bon joueur. Ensuite, on a un carton rouge et tout a déboulé. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça, chers auditeurs, chers auditrices. Défaite du CF Montréal 5-0 samedi dernier pour leur premier match de la saison du côté de Vancouver. Et c'est une défaite qui fait mal, mais le CF Montréal pourra se reprendre très bientôt, puisque dès la semaine prochaine, là, il n'y aura pas de congé. C'est un déplacement du côté de New England, pas très loin d'ici. Ça, c'est le 8 avril. Et le 15 avril, eh bien, on reçoit DC United à domicile au Stade Saputo. Le 18 avril, on reçoit Vaughan Azzurri en championnat canadien au Stade Saputo. Et le 22 avril, on reçoit les Red Bulls au Stade Saputo. Le 6 mai, on reçoit Orlando City et le 13 mai, on reçoit Toronto FC. Donc, pour les prochains matchs, là, après celui de New England Revolution, ça va être 1, 2, 3, 4, 5. Donc, sur les 6 prochains matchs qu'on va avoir, là, mis à part celui de la semaine prochaine, 5 des prochains matchs seront à domicile. Et donc, après le match contre Toronto FC, là, le 13 mai, je pourrais vous donner vraiment l'heure juste sur le CF Montréal pour vous dire si là, je commence à m'inquiéter ou pas. Ce qui est inquiétant, en effet, c'est au niveau des buts. Là, on a seulement marqué 3 buts en 5 matchs et les 3 buts ont été marqués lors du même match. Et donc, ça, c'est un peu inquiétant. Mais mis à part ça, on lâche pas et on continue de supporter notre équipe locale qui se nomme le CF Montréal. Maintenant, on s'en va en musique et on revient après ceci.
Che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene.
C'était l'excellente chanson Sarà perché ti amo, une chanson italienne de Ricci e Poveri. Maintenant, on va vous parler de la Copa Libertadores. Copa Libertadores, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la plus grande compétition de clubs en Amérique du Sud et une des plus importantes au monde. Ça tient le nom de Copa Libertadores en hommage évidemment aux libérateurs de la colonisation en ce qui concerne le continent d'Amérique du Sud. C'est une compétition très importante qui commence bientôt. En fait, elle commence demain. Et c'est une compétition qui à l'heure actuelle... remporté par Flamengo, qui a gagné le titre l'année dernière, son troisième titre. Et le club le plus titré, évidemment, c'est Independiente d'Argentine, mais ça date énormément depuis très longtemps qu'ils n'ont pas gagné ce titre, le club argentin. En termes de palmarès, vous comprendrez que la très grande majorité des clubs qui ont gagné le plus de compétitions sont brésiliens, argentins ou de l'Uruguay. Très peu de clubs de d'autres pays l'ont gagné. Le club qui l'a le plus gagné, évidemment, c'est Independiente avec 7, Boca Juniors avec 6, Peñarol d'Uruguay avec 5, River Plate d'Argentine avec 4, Estudiantes d'Argentine avec 4, Olimpia du Paraguay avec 3 titres, Nacional de l'Uruguay avec 3 titres, São Paulo 3 du Brésil, Palmeiras du Brésil 3, Santos 3, Grêmio 3, Flamengo 3, Cruzeiro 2, Internacional 2. Tous ces clubs sont brésiliens. Et après ça, on a Atlético Nacional de la Colombie qui l'a gagné deux fois. Un seul club chilien l'a gagné en 1991, soit Colo-Colo. Un seul club de l'Équateur l'a gagné, c'est en 2008 avec LDU Quito. Quelques clubs colombiens l'ont gagné et bien sûr, un club du Paraguay et deux clubs de l'Uruguay. Jamais un club mexicain l'a gagné quand ils étaient invités. Là, ça fait de ça malheureusement quelques années, puisque maintenant, ils ne sont plus invités à la Copa Libertadores. C'est un peu triste quand même, puisque moi, je supporte bien les clubs mexicains, donc c'est un peu dommage. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le petit volet historique de la Copa Libertadores. Je ne veux pas aujourd'hui vous parler de l'histoire et tout ça. Je veux juste vous donner les groupes qui ont été formés, qui ont été tirés très récemment. Et on a des groupes très intéressants. Ça va commencer, là, la Copa Libertadores 2023. Elle va débuter le 4 avril jusqu'au 29 juin. Ça, c'est la phase de groupe. Et après ça, il y aura les huitièmes de finale, les quarts, la demi-finale et la finale. On sait très bien, là, c'est des compétitions qui s'éternisent très, très, très longtemps. Les finales, généralement, là, c'est joué ça côté novembre, décembre. D'ailleurs, cette année, la date, c'est le 11 novembre 2023. Et on aura la finale qui va se passer du côté du stade Maracana à Rio de Janeiro, qui est un stade, une institution côté soccer mondial et côté soccer brésilien et côté soccer d'Amérique latine. Maintenant, pour vous parler des groupes, eh bien le groupe A, il y a 8 groupes formés de 4 équipes dans chaque groupe. Le groupe A, nous avons Flamengo du Brésil, nous avons Racing de l'Argentine, nous avons Aucas de l'Équateur et Nublense du Chili. Dans ce groupe, évidemment, les deux favoris sont très clairement Flamengo et Racing, et d'autant plus qu'ils ne s'affrontent pas, ces deux équipes-là, avant la troisième journée de la phase de groupe. Chaque équipe joue deux fois, une fois à domicile, une fois à l'extérieur, contre chacune des autres équipes, et donc il y a 6 matchs en tout par groupe, et ça fait énormément de soccer là, pour les passionnés comme moi. Là, c'est du bonbon en fait. C'est comme la Ligue des Champions, version Amérique du Sud. Le groupe B, nous avons Nacional de l'Uruguay, Internacional du Brésil, Metropolitanos du Venezuela. Le Venezuela qui n'a jamais gagné cette compétition. Venezuela, il faut le rappeler, là, c'est un pays d'Amérique du Sud, mais c'est un pays où le baseball est extrêmement populaire. Le soccer l'est aussi, mais le baseball prend énormément de place du côté du Venezuela. Et pour terminer le groupe, on a Independiente Medellín, qui est quand même un grand club colombien. Le premier match, on va vous donner les matchs tout à l'heure, donc on va continuer avec la phase de groupe, ça va être moins compliqué comme ça. Le groupe C, Palmeiras du Brésil, Barcelona de l'Équateur, Bolívar de la Bolivie et Cerro Porteño du Paraguay. Bolívar, c'est un club bolivien. Les clubs boliviens n'ont jamais gagné la Copa Libertadores, si je ne me trompe pas. Ils ont par contre déjà été en finale, je crois, de cette compétition-là. Il faut rappeler que Bolívar et beaucoup de clubs boliviens, les matchs se jouent en altitude. Et qui dit altitude dit pour les équipes adverses un peu plus de difficultés à respirer. Et donc, ça va être très intéressant de voir ce que Bolívar va faire cette année, puisqu'on le sait, là, ils ont déjà été plusieurs fois, ils ont participé à cette compétition-là énormément de fois. Et donc, on va voir ce que ça va donner. Non, en fait, Bolivar, je me suis trompé, ils n'ont jamais fait... Aucun club bolivien n'a fait une finale côté Copa Libertadores. C'est peut-être la deuxième coupe en importance, là, la Copa Sudamericana. Mais par contre, on a un Bolivien dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition. C'est Juan Carlos Sanchez avec 26 buts. Il a joué avec trois clubs boliviens, Jorge Wilstermann, Blooming et San José. Le meilleur buteur de l'histoire de la Copa Libertadores, Alberto Spencer, 54 buts. Il venait de l'Équateur. Il a joué avec Peñarol en Uruguay et Barcelona du côté de l'Équateur. Sinon, parmi les noms connus, il n'y a pas de nom très, très, très connu dans le soccer mondial pour le commun des mortels, là. C'est surtout des joueurs qui ont joué locaux. Côté Amérique latine, on le sait très bien, là, le côté les joueurs d'Amérique du Sud, Brésil, Argentine, Colombie, les meilleurs jouent très souvent en Europe et ne restent pas dans leur pays. En général, c'est une règle qui s'applique surtout aujourd'hui là, à 95% des cas. Donc voilà, ça c'était pour le groupe C avec une petite parenthèse sur l'histoire des meilleurs buteurs de la compétition. Groupe D, River Plate d'Argentine, Fluminense du Brésil, The Strongest Bolivie et Sporting Cristal Pérou. Ça, c'est pour moi un groupe extrêmement difficile parce qu'on a deux vainqueurs avec River Plate et Fluminense. On a The Strongest qui est un club bolivien, encore une fois, donc qui dit club bolivien, dit jouer en altitude. Et on a Sporting Cristal qui est un club pérouvien qui n'est pas du tout ridicule et qui ont fait d'ailleurs une finale en 1997, tout comme Universitario. L'autre club pérouvien en 1972, ils ont fait la finale. Jamais un club pérouvien n'a gagné la compétition, malheureusement. Côté groupe E maintenant, Independiente del Valle, ça c'est Équateur, Corinthians du Brésil, Argentinos Juniors de l'Argentine et Liverpool, côté pas Liverpool anglais, mais Liverpool côté Uruguay. Groupe F, Boca Juniors, Argentine, Colo-Colo du Chili, Monagas, je crois que ça se prononce comme ça, Monagas côté Venezuela et Deportivo Pereira côté Colombie. Donc ça, c'est un groupe avec quand même deux favoris ici, là, Boca Juniors et Colo-Colo. Groupe G, Atlético Paranaense du Brésil, Atlético Mineiro du Brésil, Libertad du Paraguay et Alianza Lima du Pérou. Et le dernier groupe, et non le moindre, le groupe H, c'est pas le groupe le plus sexy, mais on a Olimpia côté Paraguay, on a Atlético Nacional Colombie, Melgar Pérou et Patronato côté Argentine. Olimpia qui est quand même un club qui a gagné la Copa Libertadores trois fois et Atlético Nacional qui l'a gagné deux fois. Donc même, c'est pas un groupe très sexy, là, c'est quand même un groupe qui, avec deux champions de la compétition dans le même groupe. Donc voilà, ça c'est pour la phase de groupe. Donc 6 matchs par équipe, un match aller, un match retour contre chacune des autres équipes. Également, on va vous donner le calendrier pour cette semaine parce qu'il y a des matchs qui s'en viennent cette semaine. Ça commence dès demain, chers auditeurs, chers auditrices. Donc si vous êtes fan de soccer latino, eh bien c'est votre occasion, c'est votre semaine. Ça commence, tout commence cette semaine. Donc on va y aller tout de suite avec les groupes. C'est divisé en 3 journées. Donc pour commencer... Donc, demain, à 20h, on a Independiente Medellin qui reçoit Internacional. On a Metropolitanos contre Nacional. On a The Strongest de Bolivie qui va recevoir River Plate. Argentinos Juniors de l'Argentine qui reçoit Del Valle de l'Équateur. Et on a Alianza Lima qui reçoit Atlético. Mercredi, donc ça c'est dans 2 jours, Aucas reçoit Flamengo, Nublense reçoit Racing Club, Cerro Porteño reçoit Barcelona, Club Bolívar de la Bolivie reçoit Palmeiras du Brésil, Sporting Cristal du Pérou reçoit les Brésiliens de Fluminense, Deportivo Pereira de la Colombie reçoit Colo-Colo et Patronato de Paraná, le club argentin reçoit le club colombien Atlético Nacional. Et le groupe E, F et G, c'est pour jeudi, certains des matchs. Groupe E, Liverpool de Uruguay reçoit Corinthians du Brésil. Monagas reçoit Boca Juniors d'Argentine. Atlético Mineiro du Brésil reçoit Libertad du Paraguay. Et Melgar du Pérou reçoit Olimpia du Paraguay. Et petite parenthèse aussi, là, la deuxième compétition la plus importante de club, c'est-à-dire la Conmebol Sudamericana, commence également cette semaine, mais on en parlera une autre émission, là, on n'a pas le temps de tout élaborer par rapport à ça. Pour revenir au groupe, je veux vous mentionner également que les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les huitièmes de finale, mais la troisième équipe, donc le troisième du groupe, s'en va en Copa Sudamericana, donc il est reversé dans la deuxième compétition la plus importante de clubs en Amérique du Sud. Et donc, en fait, seulement le quatrième du groupe termine son tournoi et retourne à la maison Bredouille. Donc, c'est quand même un format qui me plaît, même si j'ai toujours aussi de la difficulté à concevoir que un club qui était en Copa Libertadores pourrait gagner, par exemple, la Copa Sudamericana, sachant qu'il a terminé troisième de son groupe. Donc ça, je suis un peu contre, mais ça donne quand même un espoir et ça permet aux équipes de rêver et aux fans de pouvoir continuer à supporter une compétition continentale. Parce que c'est vraiment une compétition continentale, là, c'est pas un secret. Quand on regarde la carte là, d'Amérique du Sud, on a des déplacements là, extrêmement lointains. Vous le savez, l'Amérique du Sud, c'est très grand. Et avant, le Mexique faisait partie de cette compétition-là. Donc, on a déjà eu des déplacements, là, par exemple, entre Tijuana, du nord du Mexique, complètement jusqu'au Brésil, jusqu'à Rio de Janeiro et jusqu'en Argentine. Donc, c'est très loin. Et également, donc, je veux vous dire, là, il y a des déplacements qui vont être très, très, très longs. On va vous donner, par exemple, on a ici là, des clubs comme... des clubs de l'Équateur comme Barcelona qui va devoir se déplacer jusqu'à Palmeiras. Ça, c'est évidemment dans la ville de Sao Paulo. On a également d'autres clubs comme Independiente del Valle de l'Équateur qui est au nord-ouest de l'Amérique latine qui va devoir aller jusqu'en Uruguay, au sud-est techniquement de l'Amérique latine, là, pas très loin de l'Argentine d'ailleurs. Donc, ça fait des déplacements qui sont très longs, très coûteux également et surtout très fatigants pour les joueurs. Puis on sait, là, l'ambiance en Amérique du Sud, c'est une ambiance de feu. C'est des fans très intense avec beaucoup d'ambiance, donc c'est pas facile de faire des déplacements côté Copa Libertadores. Donc maintenant on va faire une petite pause, on va aller écouter une bonne petite chanson et on revient après ceci avec la Coupe du Monde des moins de 20 ans, chers auditeurs, bougez pas. C'était Tabi Yosha et la chanson Vampire, nouveauté francophone de la semaine à CFAQ et à Soccer Sport. De retour à Soccer Sport tous les lundis soirs, 20h-21h, CFAQ, 92.3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Wissam Bensta avec vous jusqu'à 21h ce soir. Donc, on va parler maintenant de la Coupe du Monde U20. C'est comme la Coupe du Monde, la légendaire Coupe du Monde, là, des... normal, si on peut dire ça comme ça, eh bien, il y a une Coupe du monde des moins de 20 ans et il y a également une Coupe du monde des moins de 17 ans. Et cette Coupe du monde des moins de 20 ans, eh bien, elle va commencer très bientôt. Elle commence le 20 mai et va se terminer le 11 juin 2023. Maintenant, avant de parler de cette Coupe du monde spécifique qui pourrait et qui devait se passer en Indonésie, on va expliquer ça dans quelques minutes parce que l'Indonésie a perdu l'accueil de cette Coupe du monde-là et c'est un coup dur énorme pour ce pays asiatique. Avant de parler ça, juste pour vous dire que le dernier champion en titre de la Coupe du monde des moins de 20 ans, eh bien c'est l'Ukraine qui a battu la Corée du Sud en 2019. Ça se passait du côté de la Pologne. Avant ça, en 2017, l'Angleterre a battu le Venezuela 1-0. La Serbie a battu le Brésil 2-1 en 2015. En 2013, la France avait battu l'Uruguay 4-1 au tir au but. 2011, le Brésil l'emporte contre le Portugal, mais 2009, le Ghana l'emporte contre le Brésil. Et 2007 et 2005, eh bien, l'Argentine a gagné cette Coupe du monde des moins de 20 ans. Et on se rappelle de l'édition de 2007, d'ailleurs, qui était la Coupe du monde des moins de 20 ans du côté du Canada. Ça se passait évidemment. Certains matchs étaient présentés du côté de Montréal. Il y avait un certain Sergio Agüero qui jouait et qui a marqué en finale ça se passait du côté du National Soccer Stadium de Toronto. Il avait emporté 2-1 contre la République tchèque, qu'on appelle également la Tchéquie. Donc, ce qui nous donne, en fait, au niveau du palmarès de ce tournoi qui a eu comme première édition en 1977 en Tunisie avec une victoire de l'Union soviétique sur le Mexique 2-2 en temps réglementaire et 9-8 au tir au but. Eh bien, ce tournoi, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, l'Argentine a gagné 6 fois le tournoi. Elle a perdu une finale. Le Brésil l'a gagné 5 fois. Ils ont perdu 4 fois en finale. Le Portugal l'a gagné 2 fois. Le Ghana une fois. L'Espagne une fois. L'Allemagne une fois. L'Union soviétique, la Yougoslavie, la Serbie, la France, l'Angleterre, l'Ukraine. Donc, en réalité, l'Europe l'a gagné. L'Afrique l'a gagné. L'Amérique du Sud l'a gagné. L'Amérique du Nord, malheureusement, ne l'a pas gagné. Et l'Asie non plus. Mais par contre, ces deux continents ont fait des finales avec le Japon et le Qatar et le Mexique côté Amérique du Nord. Niveau récompense individuelle, c'est-à-dire le joueur du tournoi sélectionné par des observateurs depuis 1977, le vainqueur du Ballon d'Or, si on veut, du tournoi. En 2019, c'était Lee Kang-in, le Coréen. 2017, Dominic Solanke, qui est un joueur anglais qui joue du côté de Bournemouth. 2015, ça a été Adama Traoré, qui joue à Hull City aujourd'hui. En 2013, un certain Paul Pogba, qui joue aujourd'hui à la Juventus, mais surtout qui a été champion du monde avec l'équipe de France en 2018 et qui a été également le leader incontesté, incontestable de cette équipe française 2018. En 2011, Henrique, le Brésilien, a gagné le Ballon d'Or du tournoi. Dominique Adjia en 2009, Agüero en 2007, ça se passait chez nous du côté de Montréal. En 2005, un certain Lionel Messi a gagné ce titre de joueur du tournoi pour sa participation à la Coupe du monde des moins de 20 ans. Et Maradona l'a gagné en 1979. Donc voilà, il y a quand même des joueurs connus là, qui font ce tournoi-là. C'est pas tous les joueurs qui font ce tournoi-là, mais il y en a énormément de joueurs très, très, très connus et très bons qui jouent ce tournoi. Donc voilà. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'Ukraine a gagné le titre lors de la dernière édition. Il y avait une édition évidemment qui a été annulée. On parle ici de l'édition de 2021 qui devait se dérouler du côté de l'Indonésie. Elle a été annulée et reportée à 2023 en raison de la pandémie de COVID-19. Donc voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'Indonésie, qui est un pays où est-ce que le soccer est roi, c'est un pays où est-ce que les gens sont extrêmement passionnés par le soccer. Évidemment, nous, on les connaît peu, on ne connaît pas trop l'Indonésie, on ne connaît pas trop le soccer indonésien, mais c'est un pays qui respire et qui vit du soccer mondial. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un pays qui est du côté asiatique. C'est un archipel, en fait, il y a énormément d'îles qui forment l'Indonésie, notamment les Bali, Java, tout ça, là, c'est des destinations très touristiques, très prisées. Et ils devaient accueillir cette Coupe du Monde-là qui commençait en mai, donc dans quelques mois. Mais la FIFA a décidé de retirer l'organisation de la Coupe du Monde U20 à l'Indonésie. Le pays asiatique avait annoncé son refus d'accueillir l'équipe d'Israël pour des raisons politiques. Un nouvel organisateur devrait être trouvé plus tard en mai. L'Indonésie s'est vue retirer le droit d'accueillir la Coupe du monde de football des moins de 20 ans, du 20 mai au 11 juin. La FIFA l'a annoncé. C'est une décision qui a été prise suite à l'annulation par Fédération de football indonésienne du tirage au sort après que le gouverneur de l'île de Bali, majoritairement hindouiste, a refusé d'accueillir l'équipe d'Israël. La FIFA a décidé, en raison des circonstances actuelles, de retirer l'Indonésie de l'organisation de la Coupe du monde du 20 de la FIFA 2023, indique un communiqué de la FIFA. Un nouveau pays hôte sera désigné dès que possible, les dates de la compétition demeurant pour le moment, échangées. Des sanctions potentielles à l'encontre de la Fédération indonésienne pourraient être décidées ultérieurement. Et l'Argentine est très favorite pour recevoir cette Coupe du monde U20 2023. Maintenant, je ne veux pas parler politique. Vous savez, ici, je ne parle pas politique à cette émission-là. Ce n'est pas mon rôle. Et dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, je ne considère pas que la plupart des gens sont ouverts à un dialogue politique. Et donc, je ne vais pas commenter ce sujet. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que l'Indonésie perd une Coupe du monde U20. Parce que même si c'était la Coupe du monde U20, énormément de personnes auraient voyagé du côté du pays asiatique, du côté de l'Indonésie. Et donc, il y a des revenus touristiques qui se perdent, donc des chambres d'hôtel qui ne seront pas utilisées. Parce qu'il faut le rappeler, là, c'est 24 équipes, pas 32, c'est 24 équipes qui participent à ce tournoi-là. Et donc, il y a des chambres d'hôtel. Donc, chaque équipe, ces 24 équipes-là, on peut mettre environ, peut-être, je ne sais pas, une cinquantaine de personnes par équipe. Ça fait énormément d'hôtels, ça fait des revenus, ça fait des restaurants de plus, ça fait des touristes. Et l'Indonésie perd tout ça. Et surtout, l'Indonésie n'a jamais accueilli avant une Coupe du Monde, qu'elle soit U20, qu'elle soit U17 ou qu'elle soit, bien sûr, la Coupe du Monde. Là, la vraie, c'est certain que l'Indonésie ne l'a pas accueillie. Et d'ailleurs, ils n'ont pas, je crois qu'ils n'ont jamais participé à une Coupe du Monde, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est ça fait très mal pour les Indonésiens, pour les fans de soccer là-bas, de perdre cette Coupe du Monde. Ça n'est pas souvent arrivé. La seule fois que j'ai vu ça arriver, c'était du côté, je crois que c'était la Coupe du Monde 1986, je pense, qui devait se dérouler du côté de la Colombie, mais il avait été redonné du côté du Mexique, je crois, à cause d'un tremblement de terre en Colombie ou à cause de la situation politique de l'époque. Je ne me rappelle pas lequel des deux, mais c'est très rare que ça l'arrive, là, parce que, bon, ça reste que c'est une Coupe du Monde et on n'enlève pas à quelqu'un qui reçoit une Coupe du Monde, surtout U20. Là, on ne parle pas ici d'une compétition continentale, on parle d'une Coupe du monde U20. Donc voilà, ça c'est dit côté représentation, côté pays hôte. On verra qui sera le pays hôte, probablement l'Argentine. Et si c'est l'Argentine, honnêtement, je suis très déçu, non pas parce que c'est l'Argentine, je serais, pardon, très déçu à cause que c'est l'Argentine, mais surtout, j'aurais un peu de peine parce que je ne peux pas prendre de vacances par rapport à mon travail. Et si j'avais su, j'aurais très certainement été du côté de l'Argentine pour cette Coupe du monde du vin et pour vivre la fête dans un des pays qui est le plus passionné au monde au niveau soccer mondial et au niveau soccer tout court. D'ailleurs, si on compare peut-être la passion véhiculée par les fans et le talent de l'équipe, l'Argentine est probablement le meilleur endroit au monde pour observer du soccer avec des fans très intenses qui mettent beaucoup d'ambiance avec un championnat qui n'est pas le meilleur mais qui a énormément de passion. Après, évidemment, rajouter le Brésil avec l'Argentine. Donc maintenant, on va parler Coupe du monde du vin. On va parler des équipes qui vont représenter cette compétition-là. Côté de l'Asie, l'AFC, la Conférence asiatique de football, l'Ouzbékistan, l'Irak, la Corée du Sud sont les équipes qualifiées. Côté de l'Afrique, nous avons 4 représentants, le Sénégal, la Gambie, le Nigeria et la Tunisie. Côté de la CONCACAF, donc ça c'est notre zone à nous, les États-Unis se sont qualifiés. Le Honduras s'est qualifié, la République dominicaine s'est qualifiée et le Guatemala, mesdames et messieurs, s'est qualifié. Le Guatemala, c'est un pays aussi qui respire sa passion pour le soccer. Ils n'ont jamais participé à une Coupe du Monde. Je crois qu'ils ont déjà participé à une Coupe du Monde U17 ou U20. mais ce pays d'Amérique centrale n'en a pas fait beaucoup. Et donc, c'est un plaisir de voir le Guatemala participer à cette compétition-là. Est-ce qu'ils vont gagner cette Coupe du monde du vin? Probablement pas. Mais ça va donner une visibilité à ce pays du Guatemala du côté du monde entier. La Conmebol, ça c'est l'Amérique du Sud. Brésil qualifié, Uruguay qualifié, Colombie qualifié, Équateur qualifié. L'Océanie, la Nouvelle-Zélande est qualifiée et Fidji est qualifié, donc pas d'Australie. Et l'Europe qui a toujours plus d'équipes que les autres. Ça, je suis totalement en désaccord parce que il y a quand même plus de pays en Asie et en Afrique qu'en Europe. Et là, l'Europe se retrouve encore une fois avec plus de pays. Donc, c'est un peu du favoritisme. Mais bon, c'est pas grave. L'Angleterre y sera. L'Italie y sera. La France y sera. La Slovaquie y sera. Et Israël y sera également. Israël qui ne joue pas en Asie pour des raisons politiques. Et donc, il joue du côté de l'Europe. Ça fait plusieurs années maintenant. Là, ça fait très longtemps qu'il joue du côté de l'Europe. Et donc, il nous reste une place. Pour le pays hôte, les qualifications ont déjà été effectuées pour cette compétition, pour cette Coupe du Monde. Et donc, ça nous prend un pays hôte. Il ne pourra pas y avoir d'autres matchs de qualification. Probablement que ce sera l'Argentine. On va voir qu'est-ce qui va se passer, mais on vous tiendra informé ici à Soccer Sport sur les ondes de CFAC. 88,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke, bien sûr. Et donc, le tirage au sort va avoir lieu très bientôt. Il devait avoir lieu le 31 mars 2023, mais il a été annulé pour cause, je l'ai expliqué tantôt, pour le pays hôte qui a refusé que l'équipe d'Israël participe à la Coupe du Monde pour des raisons politiques. Donc, il y a eu... Il y a eu également des gens qui ont manifesté du côté de l'Indonésie à Jakarta pour s'opposer à la venue d'Israël par rapport à cette Coupe du monde du vin. Et donc, le tirage au sort n'a pas eu lieu et vous comprendrez que la FIFA, elle, ne veut pas niaiser. Et bon, c'est ça. Donc, le tirage devrait avoir lieu très bientôt. Mais quand même, on peut vous dire, là, les équipes favorites, il y a quatre chapeaux, c'est-à-dire que le chapeau 1 est composé des meilleures équipes. Le chapeau 2, un peu moins fort. Le chapeau 3, un peu moins. Puis le chapeau 4, c'est des équipes les moins fortes. Et donc, il y aura une équipe de chaque chapeau dans chaque groupe de quatre équipes. Chapeau 1, Sénégal, France, Italie, Uruguay, États-Unis et le pays hôte. Chapeau 2, Brésil, Colombie, Angleterre, Équateur, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud. Chapeau 3, Fidji, Nigeria, Honduras, Japon, Irak, Ouzbékistan et le chapeau 4, la Tunisie, la Gambie, la République dominicaine, la Slovaquie, Israël et le Guatemala. Voilà, donc c'est un tournoi qui commence très bientôt. Je vous recommande vraiment, si vous avez le temps, là, du côté à partir du 20 mai, de vous intéresser à cette compétition, puisque c'est une des meilleures compétitions qu'il peut y avoir. C'est les meilleurs joueurs du futur qui seront là. Et ça nous intéresse, côté fans de soccer, de pouvoir voir quels sont les futurs cracks, même si certains de ces joueurs-là, on les connaît déjà. Là, à l'époque, on savait déjà que quand il y a eu la Coupe du monde du vin côté Canada, on savait c'était qui, Sergio Agüero. Il y avait également Marcelo qui était là, il y avait José Altidor, c'était des joueurs connus, mais ça l'a aussi créé des surprises et on a découvert des nouveaux joueurs. Ce qui est intéressant également, c'est que du côté canadien, TSN et RDS auront les droits pour diffuser les matchs de la Coupe du monde U20, et donc ça, c'est une excellente nouvelle, donc ça veut dire que ça sera diffusé ici, chez nous, avec une chaîne de télévision classique, TSN et RDS, donc pas de Apple TV, pas de streaming, la bonne vieille télé classique, et on en profite pendant que ça dure, parce qu'éventuellement, peut-être que tout sera transporté du côté des réseaux sociaux, du streaming, etc., etc. Donc voilà, c'est ce qui complète la petite présentation côté Coupe du Monde U20, qui sera probablement en Argentine, mais définitivement pas en Indonésie, malheureusement pour les Indonésiens. Maintenant, pour conclure l'émission, on va vous dire qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du sport du soccer le week-end dernier. Tout d'abord, avant de parler du soccer, on va parler un peu du Phoenix de Sherbrooke. Notre équipe est en avance 2-0 contre l'Armada de Blainville. Ils ont remporté les deux matchs du côté du Palais des Sports Léopold Drolet. Je vous le rappelle, les billets sont en vente à environ 20$ le billet. Là. Puis ça, c'est maximum. Donc, je vous recommande fortement d'aller encourager votre équipe locale si vous avez le temps de le faire. Également, il y aura des matchs donc demain, mardi, et mercredi, ça va se passer du côté de Blainville-Boisbriand. Là-bas aussi, les billets sont pas chers pour les matchs 3 et 4. Mais le Phoenix de Sherbrooke devrait, là, somme toute, être capable de vaincre cette équipe de l'Armada de Blainville. Hein, je vous dirais maximum là, 5 matchs. Donc voilà, ça c'est pour côté LHJMQ, côté notre équipe locale du Phoenix de Sherbrooke. Maintenant, pour les matchs qui se sont déroulés, on a eu beaucoup de matchs intéressants ce week-end. Je vais donner le résultat. Manchester City qui s'impose 4-1 contre Liverpool. Ça va très mal pour Liverpool, qui n'est plus en Ligue des Champions d'ailleurs. L'Inter Milan perd 1-0 contre la Fiorentina avec un but de Giacomo Bonaventura pour la Fiorentina. Chelsea perd 2-0 à domicile contre Aston Villa. Leur entraîneur Porter s'est fait renvoyer. Graham Potter. Donc, c'est une catastrophe ce qui se passe du côté du Chelsea, là, avec tout l'argent qu'ils ont mis dans un effectif qui, honnêtement, là, moi, je regarde l'effectif, c'est un bel effectif, mais c'est pas du tout impressionnant, là, surtout quand on regarde les attaquants. Je ne sais pas qui est censé marquer des buts dans cette équipe-là. Raheem Sterling, c'est plus un ailier, ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué énormément de buts. On a Mason Mount, c'est plus un milieu. On a Pulisic, qui pour moi est un joueur un peu surcoté. On a João Félix, le Portugais qui n'a jamais rien prouvé. On a donc c'est pas fameux du tout là, côté effectif Chelsea, même malgré l'argent qu'ils ont dépensé. Bayern Munich s'impose 4-2 contre le Borussia Dortmund, c'est un match très important. Séville s'impose à Cadiz 2-0 dans un match andalou. La Juventus bat Hellas Vérone 1-0. Le Stade Rennais perd à domicile 1-0 contre Lens. Barcelone s'impose à Elche 4-0 avec deux buts de Lewandowski. Au Mexique, on a Atlas Guadalajara qui sont Atlas contre les Chivas de Guadalajara qui sont les deux équipes de la ville de Guadalajara au Mexique et ça s'est terminé 3-3. Un très beau match avec 6 buts et c'est quand même intéressant là, 6 buts dans un match. Si jamais vous allez voir un match puis il y a 6 buts là, c'est pas pire. Puis surtout que le dernier but a été marqué à la 57e minute, donc c'est quand même très intéressant comme scénario. Real Madrid, Valladolid 6-0 pour le Real Madrid avec un triplé de Karim Benzema, monsieur Karim Benzema, Ballon d'Or, dont un but sur un retourné acrobatique qui sera peut-être dans le top 5 début de la saison en Liga Española. L'AS Monaco s'impose 4-3 contre Strasbourg. Newcastle bat Manchester United 2-0. Villarreal bat la Real Sociedad 2-0. Fenerbahçe perd à domicile 4-2 contre Beşiktaş. Donc ça, c'est très bon pour Galatasaray qui devrait, somme toute, être champion de la Ligue turque cette année. Le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé perd à domicile 1-0 contre l'Olympique Lyonnais, qui n'est pas non plus une très grande équipe cette année. L'Olympique Lyonnais, là, ils devraient même pas se qualifier pour la Ligue Europa, à moins qu'ils gagnent la Coupe de France. Ils sont en demi-finale, donc ils ont des bonnes chances de la gagner. La grosse surprise ce week-end, là, le Napoli, qui est l'équipe qui va être championne italienne cette saison, a perdu à domicile 4-0 contre l'AC Milan avec deux buts de Raphaël Léon. Donc ça, c'est une surprise énorme. Mais malgré ça, Napoli va quand même être champion. Là, ça ne change rien. Ils ont à l'heure actuelle 16 points d'avance sur la Lazio qui est deuxième. Et l'AC Milan, avec cette victoire-là, sont au troisième rang. Donc c'est quand même une bonne nouvelle pour eux. L'Atlético Madrid s'impose 1-0 contre le Real Betis. Le Real Betis qui a manqué énormément d'occasions dans ce match. Et maintenant, les matchs à venir, il y en a énormément, donc ouvrez vos oreilles. Demain, le 4 avril, on a Eintracht Francfort contre Union Berlin et Bayern Munich contre Freiburg. Ça, c'est des matchs de la Coupe allemande. On a également Athletic Bilbao contre Osasuna. Donc ça, c'est un match de la Coupe du Roi en Espagne, des demi-finales. Et on a une autre demi-finale, la Juventus contre l'Inter de Milan. Mercredi, les autres quarts de finale côté Coupe allemande, Nuremberg qui reçoit Stuttgart et Leipzig qui reçoit Dortmund. Mercredi, 15h, le FC Barcelone reçoit le Real Madrid dans la demi-finale de la Coupe d'Espagne. Le FC Barcelone qui s'est imposé du côté de Madrid 1-0 dans le match aller. Là, c'est le match retour du côté de Barcelone. L'autre demi-finale italienne, c'est Cremonense contre Fiorentina, c'est à 15h. Et Nantes Olympique Lyonnais, demi-finale de Coupe de France. Vendredi, on a un certain Benfica contre FC Porto. Ça, c'est la Ligue portugaise. Ce sont les deux plus grandes équipes du championnat portugais de l'histoire. Donc, c'est quand même intéressant à suivre. Et samedi matin, 7h30 pour les Leftos, Celtic Rangers, le match le plus important en Écosse et un des matchs les plus chauds en Europe pour ces deux équipes qui viennent d'Écosse. Lazio Juventus, c'était à 2h45 et Nice Paris Saint-Germain, c'est à 15h samedi. Et dimanche, on a un certain Liverpool Arsenal. Chers auditeurs, chères auditrices, Voilà, donc c'est ce qui se met fait à cette émission de Soccer Sport. Merci beaucoup d'avoir été là, j'espère que vous avez apprécié. Nous, on se revoit pas la semaine prochaine parce que ça sera le dimanche de Pâques, mais dans 2 semaines pour une autre émission de Soccer Sport. D'ici là, bougez pas et n'oubliez pas de suivre votre équipe locale, le Phoenix de Sherbrooke. Vous pouvez les suivre pour pas cher et il y a du stationnement gratuit en plus. Donc allez voir ça. Merci d'avoir été là et bonne semaine.